mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Weed le char, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh,
oh.
L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par un conte de Birmanie intitulé « Le procès de la pierre ». Cet instant sera suivi par la rubrique « Texte historique ». Nous y entendrons l'écrit d'André Gombert de 1993 au sujet du revenu universel. Viendra ensuite la rubrique « Environnement ». Nous partirons dans le jardin d'Anne-Laure où Yann nous parlera trogne. Et pour clore l'émission, l'instant code du travail et convention collective où nous entendrons les réglementations liées au droit à la déconnexion selon la convention collective nationale du notariat. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti, vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Ready for you guys to take one moment look at the overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
Les allumeurs de réverbères.
Le procès de la pierre, conte de Birmanie, issu du recueil Contes curieux des quatre coins du monde, choisi, traduit et raconté par Praline Guépara, édition Actes Sud. Collection Babel, 2007.
Un jeune adolescent, du nom de Tan, voyage à pied jusqu'au village de son grand-père. Il marche depuis le lever du jour, il marche sans s'arrêter. À la tombée de la nuit, il arrive aux abords d'une ville. Il s'arrête en contrebas de la route et cherche un endroit pour dormir. Tan a quelques pièces de monnaie dans la poche. C'est toute sa fortune. Il craint de se faire voler pendant son sommeil et cherche un lieu sûr pour cacher son argent. Il voit une grosse pierre plate, la soulève et pose ses pièces dessous. Rassuré, il s'allonge et s'endort. Un homme, peu scrupuleux, passe tout près, au moment même où Tan remet la pierre en place. Il attend que le jeune homme soit endormi, lui dérobe son argent et disparaît. Dan dort à poing fermé jusqu'à l'aube. À peine réveillé, il va se laver dans un ruisseau, puis revient vers la pierre plate. Il la soulève pour reprendre ses pièces, pensant que cela pourrait lui payer un bon repas en ville. Il soulève donc la pierre et passe la main dessous. Ses doigts ne rencontrent que la terre sèche. Il tend tous les muscles de son corps et retourne entièrement la pierre. L'argent a bel et bien disparu. Tan est désespéré. Il ne comprend pas. Il éclate en sanglots et appelle au secours. Des gens de la ville entendent ses pleurs. Ils s'attroupent autour de lui et lui demandent la cause de son désarroi. Entre deux sanglots, Tan tente d'expliquer ce qui lui est arrivé. Petit à petit, une foule l'entoure, mais nul ne comprend ce qu'il dit. Quand le chef de la ville arrive, il fend la foule, s'approche de Tan et lui demande de se calmer pour lui expliquer la cause de son malheur.
« La nuit dernière, j'ai dormi au bord de la route. J'ai caché mon argent sous une pierre. Au petit matin, j'ai regardé sous la pierre et mes pièces avaient disparu. »
Le chef fronce les sourcils. Il réfléchit sérieusement aux propos de Tan. La population guette sa réaction et se demande comment il va réagir. « Où est cette pierre ?» demande le chef.
« La voici, »
répond Tan en montrant à tous les habitants le lieu où son argent a disparu.
« Arrêtez cette pierre !» ordonne sévèrement le chef. « Elle sera jugée pour vol. Elle est sans aucun doute la coupable. »
Les gens sont abasourdis. Ils n'en croient pas leurs oreilles. « Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Allez, saisissez cette pierre. C'est bien elle qui a dérobé l'argent de ce jeune homme. » Le ton du chef ne prête pas à discussion. Les habitants obéissent aux ordres, ils saisissent la pierre et l'emportent sur la place centrale de la ville où se tiennent tous les procès. Le chef s'installe et son clerc ouvre les registres de justice. Prêt à noter les échanges. Toute la population de la ville les entoure, curieuse du déroulement de l'étrange procès. Les assesseurs prennent position autour de la place. Le chef donne l'ordre d'apporter la pierre pour répondre à l'accusation de vol. Deux hommes apportent la pierre plate et la posent devant le chef, qui la regarde d'un air furieux. Dans le public, chacun fait de son mieux pour retenir son rire. Chacun dissimule le sourire naissant sur son visage, avec ses mains, pendant que le chef questionne la pierre.
« Pierre, admets-tu avoir dérobé l'argent de ce jeune homme ?» Claire notait que le suspect refuse de répondre. « Pierre, que faisais-tu au bord de la route ? De quel village es-tu ?»
Le chef n'a jamais été aussi sérieux. Il regarde sévèrement la pierre. Dans la foule, les gens se cachent le visage pour rire.
« Quel est ton nom ? Quel âge as-tu ?»
Des ricanements jaillissent de la foule. Certains rient ouvertement, d'autres font mine d'éternuer ou de renifler. Le chef, excédé, regarde autour de lui, sévèrement,
et dit « Vous savez qu'il est interdit de rire pendant un jugement. C'est une cour où la loi exerce ses droits. Je vous préviens. « Celui qui transgresse les règles du tribunal sera puni. »
Il se retourne à nouveau vers la pierre et demande.
« Pierre, tu te crois maligne ? Ne pense pas que tu t'en sortiras en demeurant silencieuse. Réponds aux questions que je te pose. Qu'as-tu fait quand ce jeune homme s'est endormi ? Qu'as-tu fait de son argent ?»
Le juge est hors de lui. Il hurle.
« Tu te moques de la loi. Puisque c'est ainsi, tu es condamné à 30 coups de fouet. Ensuite, nous te trancherons la tête. »
La foule ne peut plus se retenir. Un homme ose éclater de rire. Une femme ricane ouvertement. Et petit à petit, tous rient à gorge déployée. Une clameur joyeuse s'élève sur la place. Et le fou rire parti, nul ne peut l'arrêter. Seul le chef garde son sérieux. Il regarde le public et attend le silence. Chacun fait de son mieux pour se contrôler et petit à petit, le calme revient. Le chef se retourne alors vers son clerc.
Note sur tes registres que, quand le public a entendu la sentence du chef lors du procès de la pierre voleuse, il a exprimé son mépris pour la justice, par le rire et la dérision afin de tourner ridicule son chef. Chaque personne présente est donc condamnée à verser une amende d'une pièce de 10 piastres.
Plus personne ne sourit. Les hommes et les femmes se mettent en rang et payent leur amende. Le chef rassemble les pièces et les donne à Tan.
Tiens, mon garçon. Voici un dédommagement pour le préjudice que tu as subi dans notre ville. Faute de rendre une vraie justice, on peut toujours essayer de consoler la victime. Tan, heureux, remercie le chef et reprend sa route. Quant à la pierre, des hommes l'ont posée aux abords de la ville, lui ont donné 30 coups de fouet. Ne sachant comment la décapiter, ils l'ont laissée au bord du chemin pour aider les voleurs à réfléchir avant d'agir.
Les allumeurs de réverbères.
Tout le monde crie, maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes, réalistes, positifs.
Aventuriers?
Des résistants, avec un grand R.
Oh! Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils s'occupent des autres.
Wow.
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Le revenu universel. Par André Gombert, mai 1993. Nous avons subi une très sérieuse défaite électorale. Il n'est pas utile pour l'instant d'en rechercher et désigner des responsables. Il suffit de se souvenir que de bonne foi, nous avons fait rêver. La gestion a détruit le rêve. Nous sommes amenés à constater un renforcement du capitalisme dit libéral. Considérant les formes de capitalisme sévissant ou ayant régné, nous sommes tous convenus qu'elles ne conviennent pas. La loi du marché est aussi malfaisante que le capitalisme d'État expérimenté ailleurs. Une autre forme de société doit être proposée. C'est notre vocation de socialiste. Je m'excuse d'écrire la suite de mon propos à la première personne. J'en crois la nécessité pour rappeler qu'il y a au moins une quinzaine d'années, j'avais suggéré à notre section un autre rapport des citoyens avec la société. Je me souviens des sourires gentils et condescendants de mes camarades. Il est vrai que la culture ouvrière dont nous avons hérité ne nous permet pas de nous affranchir aisément d'un archaïsme plus que centenaire. J'avais développé l'idée selon laquelle toutes les citoyennes, tous les citoyens recevraient un revenu minimum permettant de vivre très simplement. Les salariés, quel que soit leur statut personnel, auraient en plus du revenu minimum le salaire correspondant à leur travail. Les travailleurs indépendants devraient trouver des solutions aux nombreux cas particuliers qui se révéleraient au sein de leurs organismes représentatifs. De la même façon, les agriculteurs pourraient négocier leurs revenus. Enfin, ceux voulant travailler pour effectuer tel ou tel achat ponctuel ou à long terme trouveraient plus facilement un emploi. Les règles de ce système pourraient être fixées par un organisme paritaire comprenant les financeurs d'une part et les bénéficiaires d'autre part. Il s'agirait d'une véritable révolution, libérant la vie des citoyens et des familles de la tutelle des employeurs. Ce revenu binôme, alliant une allocation à un possible salaire, dont l'idée émerge depuis quelques années dans diverses publications, aurait des avantages certains. Par exemple, liberté des personnes pouvant opter entre une activité rémunérée et la possibilité de vivre à sa convenance pour un temps choisi avec le revenu minimum. Effacement du chômage, facilité d'entreprendre, le souci vital étant moins prégnant, possibilité de poursuivre des études et de les mener à bien. Pour financer le système, il serait intéressant de comptabiliser les ressources de l'assurance chômage, les allocations familiales non versées à partir de l'âge du début du revenu minimum, les bourses d'études, les indemnités journalières de la sécurité sociale, les allocations départementales, RMI, allocations formation, de reclassement, allocations spéciales. Serait-ce utopique ? Pas plus que ne l'était au siècle dernier l'interdiction de travail aux enfants. Au début du siècle, le repas hebdomadaire est la journée de 8 heures. Il y a peu, la semaine de 40 heures et les congés payés. Si ces conquêtes du monde du travail étaient de l'utopie, alors, vive l'utopie. Dernière suggestion pratique, qu'il soit formé un groupe de travail pour étudier tous les aspects de cette révolution.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Bonjour, alors aujourd'hui on va parler trogne. Alors, qu'est-ce qu'une trogne ou un arbre têtard ? C'est une taille qui est effectuée sur certains arbres, d'une taille sévère sur des grosses sections. Alors, dans le paysage, on va avoir différents types de tailles, enfin, pour les arbres du moins. Alors, on va avoir plutôt une taille douce, c'est-à-dire qu'on vient simplement couper des petites branches, mais régulièrement pour maintenir l'arbre dans la forme qu'on veut. Et quand les coupes sont faites sur des petites branches, effectivement, l'arbre cicatrise très facilement. Une taille sévère, ça va être sur des grosses sections, c'est-à-dire qu'on va avoir une branche qui mesure entre 10, 15, 20 cm. Et bien là, ça va être une taille sévère. Donc une trogne, typiquement, on va couper l'arbre, on va choisir une hauteur, par exemple 2,50 m, et on coupe directement sa tête, quoi. Donc ça vient d'il y a très longtemps. En gros, les paysans n'étaient pas forcément propriétaires de leurs terres. Il y avait des arbres sur ces propriétés, mais ils n'avaient pas le droit de couper l'arbre. Par contre, ils avaient le droit d'élaguer l'arbre et de récupérer les grosses branches pour en faire du bois de chauffage et les jeunes rameaux pour nourrir le bétail, donc ce qu'on appelle du fourrage. Une trogne ou une taille sévère, c'est des tailles qui sont effectuées généralement une fois tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Dans le Maine-et-Loire, on en a beaucoup sur le bord des routes où vous voyez des arbres qui sont régulièrement taillés à 2 à 3 mètres de hauteur. Ils sont ététés, d'où le fait qu'on appelle ça arbre têtard. Ce sont des tailles sévères, mais l'arbre va donc refaire une multitude de nouvelles pousses autour d'où a été coupée la branche. Ce sont des bourgeons qui vont permettre à l'arbre de refermer la plaie à terme. C'est une taille qui est assez sévère et chez les paysagistes, il y en a qui ne connaissent pas forcément ce principe-là et donc qui sont très critiques vis-à-vis de ce type de taille. Ça fait une plaie quand même assez importante en fonction du diamètre de l'arbre. Donc ça s'appelle une taille sévère, mais il faut savoir que la plupart des arbres supportent assez bien ce type de taille tant qu'elles sont faites dans des conditions météorologiques qui sont propices. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça en plein été, on va plutôt faire ça au moment végétatif de l'arbre, donc c'est-à-dire en hiver où il a perdu ses feuilles, qui va sortir de l'hivernation, il va à nouveau refaire des branches et toutes ces successions de branches vont venir à terme refermer la plaie. Les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils avaient peur que les spores de champignons viennent dans la plaie et donc ils badigeonnaient d'un dérivé de pétrole pour venir protéger la plaie. Bon, avec le recul, on s'est rendu compte que, en fait, on protégeait la plaie ne respirait pas, donc ça crée de l'humidité et ça crée des conditions favorables pour les champignons, pour les spores des champignons qui vont se développer. Et en fait, essayer de se battre contre les spores des champignons, c'est un peu compliqué, parce que si on mesure dans un mètre cube d'air, on a des millions et des millions de spores de champignons, donc il y en a partout. Donc ce qu'on conseille, la chose la plus simple à faire, bah, c'est de protéger l'arbre avec de la terre qui l'a zompillé. On fait une espèce de pâte avec un peu d'eau, si c'est argileux, tant mieux, et puis on vient recouvrir la plaie avec de la terre, simplement de la terre, quoi. De la terre qui a son pied, donc qui est liée à son biotope. Et lui, ça va l'aider d'autant plus facilement à se protéger, à refermer la plaie. Il peut même, dans certains cas, créer des racines aériennes. J'ai constaté ça sur des arbres qui étaient vraiment très entourés de lierre. Le lierre permettait de garder une humidité suffisante. Et donc, sur le tronc, eh bien, on constate qu'il y a des racines qui sont créées pour se nourrir, pour récupérer les nutriments que le lierre a permis de créer en créant cette zone un peu humide, quoi. Or, il faut savoir que les trognes, d'une part, le végétal va vivre plus longtemps que s'il n'avait jamais été taillé. Donc c'est quelque chose qui a été constaté. Donc même si on amène des tailles sévères, finalement, on prolonge la durée de vie de l'arbre. Les trognes, généralement, on va voir des fois des endroits de l'arbre où l'arbre est mort, en fait, où la partie est morte, la branche est morte. Ce qui va créer un refuge pour tout un tas d'insectes, pour la biodiversité. Donc ça va être des cloportes, des carabes, des scarabées. Donc les scarabées vont venir pondre leurs œufs là-dedans. Il y a des larves qui vont éclore et qui vont manger la partie du bois qui est mort. Et donc ça, c'est typiquement, c'est un restaurant à oiseaux, hein. C'est pour les oiseaux. Quand vous remarquez dans certains jardins où il y a des branches qui ont été piquées par le pivert, généralement on accuse le pivert qu'il est en train de faire du mal à l'arbre. Mais en fait non, le pivert, il vient juste se nourrir des larves qui sont déjà en place dans l'arbre. Donc quelque part, il vient aussi protéger l'arbre puisqu'il mange ses parasites. Donc voilà, ça c'est un petit exemple pour les trognes et les oiseaux. Mais on a également sur des vieilles trognes, donc ici en bord de Maine-et-Loire, on va avoir beaucoup de frênes, des frênes avec des troncs avec une circonférence assez importante. Et donc au sein de ces troncs, on va avoir des trous qui se créent, des cavités qui vont accueillir à terme. Ça peut être des abeilles, des essaims d'abeilles, ça peut être un refuge pour les pipistrelles, les petites chauves-souris qu'on a par chez nous, mais aussi pour des chouettes, des hiboux. Donc on dit dans le paysage d'un arbre mort, il faudrait le couper. Et bien en fait, il faut savoir que comme les trognes, les parties qui sont mortes de l'arbre, eh bien, elles vont accueillir tout un tas de biodiversité. Cette biodiversité, que ce soit les insectes, vont transformer cet arbre mort une partie en humus, et cet humus, eh bien, va être parfait pour accueillir un nouvel arbre. On constate souvent dans des trognes, eh bien, que dans l'arbre, on a à nouveau une graine qui est tombée et qui vient germer directement au cœur de l'arbre, et donc qui viendra le succéder par la suite. Si jamais l'arbre est mort, ou même dans une trogne qui est vivante, eh bien, ça c'est un élément important. Beaucoup de gens pensent qu'un arbre, c'est tout le tronc qui est vivant, mais en fait non, l'arbre il pousse par l'extérieur. Il n'y a que la partie, le cambium en fait, c'est une couche qui est autour de l'arbre, sous l'écorce, et il n'y a que elle qui est vivante, le subère et le libère, qui viennent acheminer la sève brute qui vient des racines pour les emmener au niveau des feuilles, pour faire la photosynthèse, et donc ensuite les redescendent dans les racines, cette sève qu'on appelle sève élaborée. Donc l'arbre ne poussant que par l'extérieur, tout ce qui est au centre est déjà mort et l'arbre s'en sert simplement pour stocker tout un tas de tanins, des choses qu'il n'en veut plus. Mais il y a le stock sur ses cellules qui va ensuite laisser mourir et il va continuer à grandir par l'extérieur et donc augmenter son diamètre. Donc même si l'arbre est mort à l'intérieur, c'est pas pourtant qu'il est mort. Enfin le bois mort a sans doute été mangé par des champignons, ça va fragiliser un peu la structure de l'arbre, mais sur des trognes qui sont à 3 mètres, il n'y a pas tellement de danger que ça. Et donc on va avoir des arbres qui peuvent être creux à l'intérieur, mais complètement vivants. Et on va avoir même un arbre qui va pousser à l'intérieur de cet arbre, et donc les deux vont vivre en symbiose. Voilà, différents exemples des aspects bénéfiques de la trogne. Et donc dans un jardin, si on a un arbre qui est mort et on se dit on va le couper parce qu'il est mort, et bien finalement on enlève de la vie puisqu'on enlève un refuge pour tout un tas de biodiversité. Donc j'incite les jardiniers à ne pas forcément arracher complètement un arbre qui est mort, peut-être laisser une souche, laisser une partie du tronc pour laisser une place à la biodiversité.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de réverbères.
Le droit à la déconnexion. Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, actualisée par l'accord du 16 décembre 2021. Préambule.
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont révolutionné les conditions de travail dans les offices. Si elles ont enrichi les pratiques, elles ont également estompé la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée, créant un risque pour l'équilibre personnel des salariés. Pour cette raison, après l'accord sur le télétravail, les partenaires sociaux du notariat ont décidé de poursuivre leurs négociations sur la qualité de vie au travail par une discussion sur le droit à la déconnexion qui trouve sa place dans la démarche de prévention déjà initiée par les accords sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et l'accord sur la prévention et la gestion des risques psychosociaux. Ils entendent ainsi participer à la prise de conscience de l'importance du sujet et inciter les employeurs à s'y intéresser. Dans une branche constituée en très grande majorité d'offices de moins de 50 salariés auxquels les dispositions du Code du travail imposant une négociation en la matière ne s'appliquent pas. Article 1er. En dehors du temps de travail, l'utilisation à titre professionnel d'outils numériques par les salariés doit être exceptionnelle. Il appartient aux employeurs de veiller au respect de ce principe en s'abstenant notamment de toute sollicitation de nature à inciter les salariés à rester connectés pendant leur temps de repos et de congé. Il appartient également à chaque salarié d'être vigilant au respect du droit à la déconnexion de l'ensemble des membres de sa communauté de travail pour que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de chacun soit préservé. Article 2. Droit et devoir de déconnexion. Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de ne pas être connecté à un outil numérique à titre professionnel pendant ses temps de repos et de congé. Le devoir de l'employeur de ne pas solliciter à titre professionnel les salariés pendant ses temps de repos et de congé sans motif sérieux et exceptionnel. Un devoir de déconnexion s'impose également à chaque salarié. Sans que cette liste soit limitative, les outils numériques dont l'usage doit ainsi être encadré sont les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables ou fixes. Article 3. Salariés concernés. Droits et devoirs de déconnexion concernent tous les salariés, quelles que soient leurs fonctions et leurs responsabilités au sein de l'office. Lorsque l'employeur autorise un accès au réseau de la profession en dehors du poste fixe de l'office, notamment dans le cadre d'un télétravail mis en place dans les conditions prévues par l'accord de branche du 14 juin 2018, il rappelle aux salariés concernés ce droit et ce devoir de déconnexion et veille à leur respect. En application de l'article 8.3.2 de la Convention collective nationale du notariat, l'employeur doit s'assurer que le salarié qui bénéficie d'une convention de forfait en jour sur l'année a la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Article 4. Connexion hors temps de travail. Certaines circonstances professionnelles exceptionnelles peuvent nécessiter la connexion du salarié à un outil numérique en dehors des horaires de travail. Un usage exceptionnel doit être justifié et les éventuelles heures de travail supplémentaires et ou complémentaires correspondantes rémunérées et ou récupérées dans les conditions légales. Aucun salarié ne peut être sanctionné pour n'avoir pas été connecté en dehors de ses horaires de travail. Article 5. Contrôle et alerte. Au cours de l'entretien annuel d'évaluation prévu par l'article 16 de la Convention collective nationale du notariat, l'employeur s'assure du respect du droit et du devoir de déconnexion. En outre, à tout moment, chaque salarié peut alerter son employeur sur les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de son droit à la déconnexion, mais également, le cas échéant, sur tout dysfonctionnement qu'il a pu constater au sein de l'office à ce sujet. L'employeur qui constate une fréquence de connexion professionnelle anormale et injustifiée en dehors des horaires de travail en recherche l'origine, notamment dans l'organisation du travail au sein de l'office, la charge de travail ou les sollicitations émanant de la clientèle ou de tiers, met en œuvre les solutions pour que cette situation cesse, s'assure ensuite de l'absence de toute nouvelle dérive à ce sujet.
C'est beau ça, maman.
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-réverbère.fr, sur le site de l'autre radio et sur les réseaux sociaux @lesallumeursdereverbère. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour avec la participation de Yann, habillage musical par Happy London Call. Nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.